Suite du chapitre 2. Française ou non, elle le préoccupait, car dans le milieu de la nuit, il se réveilla avec un serrement de cœur. Il venait de se rappeler la valise placée sur la banquette auprès de la jeune fille, et brusquement, l'idée que la voyageuse était partie tout à fait lui traversa l'esprit. À vrai dire, cette idée aurait dû lui venir dès le premier instant, mais il n'y avait pas songé. Il en ressentait une sourde tristesse. Il haussa les épaules dans son lit. « Qu'est-ce que cela peut bien me faire ?» se dit-il. « Cela ne me regarde pas. » Il se rendormit. Mais le lendemain, la première personne qu'il rencontra en sortant fut Mannheim, qu'il appela Blücher, et lui demanda s'il avait décidé de conquérir toute la France. Par cette gazette vivante, il apprit que l'histoire de la loge avait eu un succès qui dépassait tout ce que Mannheim en attendait. « Tu es un grand homme !» criait Mannheim. « Je ne suis rien auprès de toi. » « Qu'est-ce que j'ai fait ?» dit Christophe. « Tu es admirable, » reprit Mannheim. « Je suis jaloux de toi. Soufflez la loge au nez des Grunebaum et y inviter à leur place leur institutrice française. Non, cela c'est le bouquet, je n'aurais pas trouvé cela. » « C'était l'institutrice des Grunebaum ?» dit Christophe, stupéfait. « Oui, fais semblant de ne pas savoir. Fais l'innocent, je te le conseille. Papa ne décolère plus. Les Grunebaum sont dans une rage. » Cela n'a pas été long. Ils ont flanqué la petite à la porte. « Comment ? » cria Christophe. « Ils l'ont renvoyée ? Renvoyée à cause de moi ?»« Tu ne le savais pas ?» dit Mannheim. « Elle ne te l'a pas dit ?» Christophe se désolait. « Il ne faut pas te faire de bile, mon bon, » dit Mannheim. « Cela n'a pas d'importance. » Et puis, il fallait bien s'y attendre. Le jour où les Grunebaum viendraient à apprendre... « Quoi ? » cria Christophe. « Apprendre quoi ? Qu'elle était ta maîtresse, parbleu. » « Je ne la connais même pas. Je ne sais pas qui elle est. » Mannheim eut un sourire qui voulait dire « Tu me crois trop bête. » Christophe se fâcha, somma Mannheim de lui faire l'honneur de croire à ce qu'il affirmait. Mannheim dit « Alors, c'est encore plus drôle. » Christophe parlait d'aller trouver les Grunebaum, de leur dire leur fête, de justifier la jeune fille. Mannheim l'en dissuada. « Mon cher, dit-il, tout ce que tu leur diras ne fera que les convaincre davantage du contraire. Et puis, il est trop tard. La fille est loin maintenant. » Christophe, la mort dans l'âme, tâcha de retrouver la piste de la jeune Française. Il voulait lui écrire, lui demander pardon. Mais nul ne savait rien d'elle. Les Grunebaum, à qui il s'adressa, l'envoyèrent promener. Ils ignoraient où elle était allée, et ils ne s'en inquiétaient pas. L'idée du mal qu'il avait fait torturait Christophe. C'était un remords continuel. Il s'y joignait une mystérieuse attirance qui, des yeux disparus, rayonnait silencieusement sur lui. Attirance et remords parurent s'effacer, recouverts par le flot des jours et des pensées nouvelles. Mais ils persistèrent obscurément au fond. Christophe n'oubliait point celle qu'il appelait sa victime. Il s'était juré de la rejoindre. Il savait combien il avait peu de chances de la revoir, et il était sûr qu'il la reverrait. Quant à Corinne, jamais elle ne répondit aux lettres qu'il lui écrivit. Mais 3 mois plus tard, quand il n'attendait plus rien, il reçut d'elle un télégramme de 40 mots où elle bêtifiait à cœur joie, lui donnait le petit nom familier et demandait si on s'aimait toujours. Puis, après un nouveau silence de près d'une année, vint un bout de lettre griffonné de son énorme écriture enfantine et zigzagante qui cherchait à paraître grande dame, quelques mots affectueux et drôlatiques. Et puis elle en resta là. Elle ne l'oubliait pas, mais elle n'avait pas le temps de penser à lui. Encore sous le charme de Corinne, et tout plein les idées qu'ils avaient échangées, Christophe rêva d'écrire de la musique pour une pièce où Corinne jouerait et chanterait quelques airs, une sorte de mélodrame poétique. Ce genre d'art, jadis en faveur en Allemagne, passionnément goûté par Mozart, pratiqué par Beethoven, par Weber, par Mendelssohn, par Schumann, par tous les grands classiques, était tombé en discrédit depuis le triomphe du wagnérisme, qui prétendait avoir réalisé la formule définitive du théâtre et de la musique. Les braves pédants wagnériens, non contents de proscrire tout mélodrame nouveau, s'appliquaient à faire la toilette des mélodrames anciens. Ils effaçaient avec soin dans les opéras toute trace des dialogues parlés et écrivaient pour Mozart, pour Beethoven ou pour Weber des récitatifs de leur façon. Ils étaient convaincus de compléter la pensée des maîtres en déposant pieusement sur les chefs-d'œuvre leurs petites ordures. Christophe, à qui les critiques de Corinne avaient rendu plus sensible la lourdeur et souvent la laideur de la déclamation wagnérienne, se demandait si ce n'était pas un non-sens. Une œuvre contre nature, d'accoupler au théâtre et de ligoter ensemble dans le récitatif la parole et le chant. C'était comme si l'on voulait attacher au même char un cheval et un oiseau. La parole et le chant avaient chacun leur rythme. On pouvait comprendre qu'un artiste sacrifiât l'un des deux arts au triomphe de celui qu'il préférait. Mais chercher un compromis entre eux, c'était les sacrifier tous deux. C'était vouloir que la parole ne fût plus la parole et que le chant ne fût plus le chant, que celui-ci laissât encaisser son large cours entre deux berges de canal monotones, que celui-là chargeât ses beaux membres nus d'étoffes riches et lourdes qui paralysaient ses gestes et ses pas. Pourquoi ne pas leur laisser à tous deux leur libre mouvement, telle une belle fille qui va d'un pas alerte le long d'un ruisseau et qui rêve en marchant. Le murmure de l'eau berce sa rêverie. Sans qu'elle en ait conscience, elle rythme ses pas sur le chant du ruisseau. Ainsi, libres toutes deux, musique et poésie s'en iraient côte à côte en mélangeant leurs rêves. Assurément, à cette union, toute musique n'était point bonne, ni toute poésie. Les adversaires du mélodrame avaient beau jeu contre la grossièreté des essais qui en avaient été faits et de leurs interprètes. Longtemps, Christophe avait partagé leur répugnance. La sottise des acteurs qui se chargeaient de ces récitations parlées sur un accompagnement instrumental, sans se soucier de l'accompagnement, sans chercher à y fondre leur foi, mais tâchant au contraire qu'on n'entendît rien qu'eux, avait de quoi révolter toute oreille musicale. Mais depuis qu'il avait goûté l'harmonieuse voix de Corinne, cette voix liquide et pure qui se mouvait dans la musique comme un rayon dans l'eau, qui épousait tous les contours d'une phrase mélodique, qui était comme un chant plus fluide et plus libre, il avait entrevu la beauté d'un air nouveau. Peut-être avait-il raison, mais il était encore bien inexpérimenté pour se hasarder sans danger dans un genre qui, si l'on veut qu'il soit vraiment artistique, est le plus difficile de tous. Surtout, cet art réclame une condition essentielle, la parfaite harmonie des efforts combinés du poète, du musicien et des interprètes. Christophe ne s'en inquiétait point. Il se lançait à l'étourdi dans un art inconnu dont lui seul pressentait les lois. Sa première idée fut de revêtir de musique une féerie de Shakespeare ou un acte du second Faust, mais le théâtre se montrait peu disposé à tenter l'expérience. Elle devait être coûteuse et paraissait absurde. On admettait bien la compétence de Christophe en musique, mais qu'il se permît d'avoir des idées sur le théâtre faisait sourire les gens. On ne le prenait pas au sérieux. Le monde de la musique et celui de la poésie semblaient deux états étrangers l'un à l'autre, et secrètement hostiles. Pour pénétrer dans l'état poétique, il fallut que Christophe acceptât la collaboration d'un poète. Et ce poète, il ne lui fut pas permis de le choisir, il ne se le fut pas permis lui-même. Il se défiait de son goût littéraire. On lui avait persuadé qu'il n'entendait rien à la poésie. Et de fait, il n'entendait rien aux poésies qu'on admirait autour de lui. Avec son honnêteté et son opiniâtreté ordinaire, il s'était donné bien du mal pour tâcher de sentir la beauté de tel ou tel poème. Il était toujours sorti de là, bredouille et un peu honteux. Non, décidément, il n'était pas poète. À la vérité, il aimait passionnément certains poètes d'autrefois, et cela le consolait un peu. Mais sans doute ne les aimait-il pas comme il fallait les aimer. N'avait-il pas, une fois, exprimé l'idée saugrenue qu'il n'est de grands poètes que ceux qui restent grands, même traduits en prose, même traduits en une prose étrangère, et que les mots n'ont de prix que par l'âme qu'ils expriment? Ses amis s'étaient moqués de lui. Mannheim le traita d'épicier. Il n'avait pas essayé de se défendre. Comme il voyait journellement, par l'exemple des littérateurs qui parlent de musique, le ridicule des artistes qui prétendent juger d'un autre art que le leur, il se résignait, un peu incrédule au fond, à son incompétence poétique. Et il acceptait les yeux fermés les jugements de ceux qu'il croyait mieux informés. Aussi se laissa-t-il imposer par ses amis de la revue un grand homme du cénacle décadent, Stefan von Helmuth, qui lui apporta une Iphigénie de sa façon. C'était alors le temps où les poètes allemands, comme leurs confrères de France, étaient en train de refaire les tragédies grecques. L'œuvre de Stefan von Helmuth était une de ces étonnantes pièces gréco-allemandes où se mêlent Ibsen, Homer et Oscar Wilde. Sans oublier, bien entendu, quelques manuels d'archéologie. Agamemnon était neurasthénique et Achille impuissant. Ils se désolaient longuement de leur état, et naturellement leurs plaintes n'y changeaient rien. Toute l'énergie du drame était concentrée dans le rôle d'Iphigénie, une Iphigénie névrosée, hystérique et pédante, qui faisait la leçon aux héros, déclamait furieusement, exposait au public son pessimisme nietzschéen, et, ivre de mourir, s'égorgeait elle-même avec des éclats de rire. Rien de plus contraire à l'esprit de Christophe que cette littérature prétentieuse d'ostrogoths dégénérés, qui se costume à la grecque. Autour de lui, on criait au chef-d'œuvre. Il fut lâche, il se laissa persuader. À vrai dire, il crevait de musique, et bien plus qu'au texte, il songeait à sa musique. Le texte lui était un lit où épancher le flot de ses passions. Il était aussi loin que possible de l'état d'abnégation et d'impersonnalité intelligente qui convient au traducteur musical d'une œuvre poétique. Il ne pensait qu'à lui et pas du tout à l'œuvre. Il se gardait d'en convenir. D'ailleurs, il se faisait illusion. Il voyait dans le poème tout autre chose que ce qui s'y trouvait. Comme lorsqu'il était enfant, il était arrivé à se bâtir dans sa tête une pièce entièrement différente de celle qu'il avait sous les yeux. Au cours des répétitions, il aperçut l'œuvre réelle. Un jour qu'il écoutait une scène, elle lui parut si bête qu'il crut que les acteurs la défiguraient. Et il eut la prétention non seulement de la leur expliquer, en présence du poète, mais de l'expliquer à celui-ci qui prenait la défense de ses interprètes. L'auteur se rebiffa et dit, d'un ton piqué, qu'il pensait savoir ce qu'il avait voulu écrire. Christophe n'en démordait point et soutenait que Helmuth n'y comprenait rien. L'hilarité générale l'avertit qu'il se rendait ridicule. Il se tut, convenant qu'après tout, ce n'était pas lui qui avait écrit les vers. Alors il vit l'écrasante nullité de la pièce et il en fut accablé. Il se demandait comment il avait pu s'y tromper. Il s'appelait imbécile et s'arrachait les cheveux. Il avait beau tâcher de se rassurer en se répétant « Tu n'y comprends rien, ce n'est pas ton affaire, occupe-toi de ta musique », il se sentait si honteux de la niaiserie, du pathos prétentieux, de la fausseté criante des mots, des gestes, des attitudes, que par moments, tandis qu'il conduisait l'orchestre, il n'avait plus la force de lever son bâton. Il avait envie d'aller se cacher dans le trou du souffleur. Mais il était trop franc et trop mauvais politique pour déguiser ce qu'il pensait. Chacun s'en apercevait, ses amis, les acteurs et l'auteur. Helmuth lui disait avec un sourire pincé, « Est-ce que ceci n'est pas encore l'heure de vous plaire ?» Christophe répondait bravement, « Pour dire la vérité, non, je ne comprends pas. Vous ne l'aviez donc pas lu pour faire votre musique ?»« Si, disait naïvement Christophe, mais je me trompais. Je comprenais autre chose. C'est dommage alors que vous n'ayez pas écrit vous-même ce que vous compreniez. »« Ah, si je l'avais pu, disait Christophe. » Le poète, vexé, critiquait pour se venger la musique. Il se plaignait qu'elle fût encombrante et qu'elle empêcha d'entendre les vers. Si le poète ne comprenait pas le musicien, ni le musicien le poète, les acteurs ne comprenaient ni l'un ni l'autre, et ne s'en inquiétaient point. Ils cherchaient seulement dans leur rôle des phrases, de place en place, où accrocher leurs effets habituels. Il n'était pas question d'adapter leur déclamation à la tonalité du morceau et au rythme musical. Ils allaient d'un côté et la musique de l'autre. On eût dit qu'ils chantaient constamment hors du ton. Christophe en grinçait des dents et s'épuisait à leur crier la note. Il le laissait crier et continuait imperturbablement, ne comprenant même pas ce qu'il voulait d'eux. Christophe eût tout lâché si les répétitions n'avaient été avancées et s'il n'eût été lié par la crainte d'un procès. Mannheim, à qui il fit part de son découragement, se moqua de lui. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il. « Tout va très bien. Vous ne vous comprenez pas l'un l'autre ? Et qu'est-ce que cela fait ? Qui a jamais compris une œuvre en dehors de l'auteur ? Il a encore bien de la chance quand il se comprend lui-même. » Christophe se tourmentait de la niaiserie du poème qui, disait-il, ferait tomber sa musique. Mannheim ne faisait pas de difficulté pour reconnaître que le poème n'avait pas le sens commun, et que Helmut était un daim. Mais il n'avait aucune inquiétude à son égard. Helmut donnait de bons dîners et il avait une jolie femme. Qu'est-ce qu'il faut de plus à la critique ? Christophe haussait les épaules, disant qu'il n'avait pas le temps d'écouter des balivernes. « Mais ce ne sont pas des balivernes, » disait Mannheim en riant. « Voilà bien les braves gens, ils n'ont aucune idée de ce qui compte dans la vie. » Et il conseillait à Christophe de ne pas tant se préoccuper des affaires de Helmut et de songer aux siennes. Il l'engageait à faire un peu de réclame. Christophe refusait avec indignation. À un reporter qui cherchait à l'interviewer sur sa vie, il répondait furieux « Cela ne vous regarde pas. » Et quand on lui demandait sa photographie pour une revue, il sautait de colère en criant qu'il n'était pas, Dieu merci, le Kaiser pour étaler sa tête aux passants. Impossible de le mettre en relation avec les salons influents. Il ne répondait pas aux invitations, et quand par hasard il avait été forcé d'accepter, il oubliait de s'y rendre, ou venait de si mauvaise grâce qu'il semblait avoir pris à tâche d'être désagréable à tout le monde. Mais le comble fut qu'il se brouilla avec sa revue 2 jours avant sa représentation. Ce qui devait arriver arriva. Mannheim avait continué sa révision des articles de Christophe. Il ne se gênait plus pour biffer des lignes entières de critiques et les remplacer par des compliments. Un jour, dans un salon, Christophe se trouva en présence d'un virtuose, un pianiste belâtre qui l'avait éreinté et qui vint le remercier en souriant de toutes ses dents blanches. Il répondit brutalement qu'il n'y avait pas de quoi. L'autre insistait, se confondant en protestations de reconnaissance. Christophe y coupa court, en lui disant que s'il était satisfait de l'article, c'était son affaire, mais que l'article n'avait certainement pas été écrit pour le satisfaire, et il lui tourna le dos. Le virtuose le prit pour un bourru bienfaisant et s'en alla en riant. Mais Christophe, qui se souvint d'avoir reçu peu avant une carte de remerciement d'une autre de ses victimes, fut brusquement traversé d'un soupçon. Il sortit, il alla acheter à un kiosque de journaux le dernier numéro de la revue, il chercha son article, il lut. Sur le moment, il se demanda s'il devenait fou. Puis il comprit, et dans une rage folle, il courut au bureau du Dionysos. Waldhaus et Mannheim s'y trouvaient, en conversation avec une actrice de leurs amis. Ils n'eurent pas besoin de demander à Christophe pourquoi elle venait. Jetant le numéro de la revue sur la table, Christophe, sans prendre le temps de respirer, les apostropha avec une violence inouïe, criant, les traitant de drôles, de gredins, de faussaires, et tapant sur le plancher à tour de bras avec une chaise. Mannheim essayait de rire. Christophe voulut lui flanquer son pied au derrière. Mannheim se réfugia derrière la table en se tordant. Mais Waldhaus le prit de très haut. Digne et gourmé, il s'évertuait à faire entendre, au milieu du vacarme, qu'il ne permettrait pas qu'on lui parlât sur ce ton, que Christophe aurait de ses nouvelles. Et il lui tendait sa carte. Christophe la lui jeta au nez. « Faiseur d'embarras, je n'ai pas besoin de votre carte pour savoir qui vous êtes. Vous êtes un polisson et un faussaire. Et vous croyez que je vais me battre avec vous ? Une correction, c'est tout ce que vous méritez. » De la rue, on entendait sa voix. Les gens s'arrêtaient pour écouter. Mannheim ferma les fenêtres. La visiteuse, effrayée, cherchait à s'enfuir. Mais Christophe bloquait la porte. Waldhaus, blême et suffoqué, Mannheim bredouillant, ricanant, essayait de répondre. Christophe ne le laissa point parler. Il déchargea sur eux tout ce qu'il put imaginer de plus blessant, et ne s'en alla que quand il fut à bout de souffle et d'injures. Waldhaus et Mannheim ne retrouvèrent la voix que quand il fut parti. Mannheim reprit vite son aplomb. Les injures glissaient sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais Waldhaus restait ulcéré. Sa dignité avait été outragée, et ce qui rendait l'affront plus mortifiant, c'est qu'il avait eu des témoins. Il ne pardonnerait jamais. Ses collègues firent chorus. De toute la revue, Mannheim continua seul à n'en pas vouloir à Christophe. Il s'était amusé de lui tout son sou. Il ne trouvait pas que ce fût payé trop cher, au prix de quelques gros mots, la pinte de bon sang qu'il s'était faite à ses dépens. Ça avait été une bonne farce. S'il en eût été l'objet, il en eût ri tout le premier. Aussi était-il prêt à serrer la main de Christophe, comme si rien ne s'était passé. Mais Christophe était plus rancunier. Il repoussa toute avance. Mannheim ne s'en affecta point. Christophe était un jouet dont il avait tiré tout l'amusement possible. Il commençait à s'enflammer pour un autre pantin. Du jour au lendemain, tout fut fini entre eux. Cela n'empêcha point Mannheim de continuer à dire, quand on parlait devant lui de Christophe, qu'ils étaient amis intimes, et peut-être qu'ils le croyaient. Deux jours après la brouille, eut lieu la première d'Iphigénie. Four complet, la revue de Waldhaus loua le poème et ne dit rien de la musique. Les autres journaux s'en donnèrent à cœur joie. On rit et on siffla. La pièce fut retirée après la troisième représentation. Mais les railleries ne cessèrent point si vite. On était trop heureux de trouver cette occasion de dauber sur Christophe. Et l'Iphigénie resta pendant plusieurs semaines un sujet d'inépuisable plaisanterie. On savait que Christophe n'avait plus d'armes pour se défendre, et l'on en profitait. La seule chose qui retint encore un peu, c'était sa situation à la cour. Bien que ses rapports fussent devenus assez froids avec le grand-duc, qui lui avait fait à maintes reprises des observations dont il n'avait tenu aucun compte, il continuait de se rendre de temps en temps au château et de bénéficier, dans l'esprit du public, d'une sorte de protection officielle, plus illusoire que réelle. Il se chargea lui-même de détruire ce dernier appui. Il souffrait des critiques. Elles ne s'adressaient pas seulement à sa musique, mais à son idée d'une forme d'art nouvelle qu'on ne se donnait pas la peine de comprendre. Il était plus facile de la travestir pour la ridiculiser. Christophe n'avait pas encore la sagesse de se dire que la meilleure réponse qu'on puisse faire à des critiques de mauvaise foi est de ne leur en faire aucune et de continuer à créer. Il avait pris, depuis quelques mois, la mauvaise habitude de ne laisser passer aucune attaque injuste sans y répondre. Il écrivait un article où il n'épargnait point ses adversaires. Les deux journaux bien pensants auxquels il le porta le lui rendirent en s'excusant avec une politesse ironique de ne pouvoir le publier. Christophe s'entêta. Il se souvint du journal socialiste de la ville qui lui avait fait des avances. Il connaissait un des rédacteurs. Ils discutaient parfois ensemble. Christophe avait plaisir à trouver quelqu'un qui parlât librement du pouvoir, de l'armée, des préjugés oppressifs et archaïques. Mais la conversation ne pouvait aller bien loin, car avec le socialiste, elle revenait toujours à Karl Marx, qui était absolument indifférent à Christophe. D'ailleurs, Christophe retrouvait dans ses discours d'homme libre, en outre d'un matérialisme qui ne lui plaisait pas beaucoup, une rigueur pédante et un despotisme de pensée, un culte secret de la force, un militarisme à rebours, qui ne sonnait pas très différemment de ce qu'il entendait chaque jour en Allemagne. Néanmoins, ce fut à lui et à son journal qu'il songea quand il se vit fermer la porte des autres rédactions. Il se dit bien que sa démarche ferait scandale. Le journal était violent, haineux, constamment condamné. Et comme Christophe ne le lisait pas, il ne pensait qu'à la hardiesse des idées, qui ne l'effrayait point, et non à la bassesse du ton qui lui eût répugné. Au reste, il était si enragé de voir l'entente sournoise des autres journaux afin de l'étouffer, que peut-être eût-il passé outre, même s'il avait été mieux averti. Il voulait montrer aux gens qu'on ne se débarrassait pas si facilement de lui. Il porta donc l'article à la rédaction socialiste, où il fut reçu à bras ouverts. Le lendemain, l'article parut, et le journal annonçait en termes emphatiques qu'il s'était assuré le concours du jeune et talentueux maître, le camarade Kraft, dont étaient bien connues les ardentes sympathies pour les revendications de la classe ouvrière. Christophe ne lut ni la note ni l'article, car ce matin-là, qui était un dimanche, il était parti avant l'aube pour une promenade à travers champs. Il était admirablement disposé. En voyant lever le soleil, il cria, rit, youla, sauta et dansa. Plus de revues, plus de critiques à faire. C'était le printemps et le retour de la musique du ciel et de la terre, la plus belle de toutes. Fini des sombres salles de concert, étouffantes et puantes, des voisins désagréables, des virtuoses insipides. On entendait s'élever la merveilleuse chanson des forêts murmurantes. Et sur les champs passaient des effluves enivrantes de la vie qui brisaient l'écorce de la terre. Il revenait de promenade, la tête bourdonnante de lumière, quand sa mère lui remit une lettre apportée du palais en son absence. La lettre, écrite sous une forme impersonnelle, avisait M. Kraft qu'il eût à se rendre ce matin au château. Le matin était passé, il était près d'une heure. Christophe ne s'en émut guère. « Il est trop tard maintenant, dit-il, ce sera pour demain. » Mais sa mère s'inquiéta. « Non, non, on ne peut pas remettre ainsi un rendez-vous de son Altesse. Il faut y aller tout de suite. Peut-être s'agit-il d'une affaire importante. » Christophe haussa les épaules. Importante, comme si ces individus pouvaient avoir quelque chose d'important à vous dire. Il va m'exposer ses idées sur la musique, ce sera gai. Pourvu qu'il ne lui ait pas pris fantaisie de rivaliser avec Siegfried Meyer, et qu'il n'ait pas, lui aussi, à montrer un hymne à Égir. Je ne l'épargnerai pas. Je lui dirai, faites donc de la politique, là vous êtes le maître, vous aurez toujours raison. Mais dans l'art, prenez garde. Dans l'art, on vous voit sans casque, sans panache, sans uniforme, sans argent, sans titre, sans aïeux, sans gendarme. Et dame, pensez un peu, qu'est-ce qui restera de vous ? La bonne Louisa, qui prenait tout au sérieux, leva les bras au ciel. « Tu ne diras pas cela, tu es fou, tu es fou !» Il s'amusait à l'inquiéter, en abusant de sa crédulité, jusqu'à ce que la dose de l'extravagance fût si forte que Louisa finit par comprendre qu'il se moquait d'elle. Elle lui tournait le dos. « Tu es trop bête, mon pauvre garçon !» Il l'embrassa en riant. Il était de magnifique humeur. Il avait trouvé dans sa promenade un beau thème musical, et il le sentait s'ébattre en lui comme un poisson dans l'eau. Il ne voulut point partir pour le château avant d'avoir mangé. Il avait un appétit d'ogre. Louisa veilla ensuite à sa toilette, car il recommençait à la tourmenter. Il prétendait qu'il était bien comme il était, avec ses vêtements usés et ses souliers poudreux. Cela ne l'empêcha point d'en changer et de cirer ses chaussures, en sifflant comme un merle et en imitant tous les instruments de l'orchestre. Quand il eut fini, sa mère passa l'inspection et refit gravement son nœud de cravate. Il était très patient, par extraordinaire, parce qu'il était content de lui, ce qui n'était pas non plus très ordinaire. Il partit en disant qu'il allait enlever la princesse Adélaïde, la fille du grand-duc, une assez jolie femme mariée à un petit prince allemand, qui était venu passer quelques semaines auprès de ses parents. Elle avait témoigné jadis quelque sympathie à Christophe quand il était enfant, et il avait un faible pour elle. Louisa prétendait qu'il en était amoureux, et pour s'amuser, il feignait de l'être. Il ne se pressait pas d'arriver, flânant devant les boutiques, s'arrêtant dans la rue pour caresser un chien qui flânait comme lui, étendu sur le flanc et bâillant au soleil. Il sauta les grilles inoffensives qui saignaient la place du château, un grand carré désert entouré de maisons, avec deux jets d'eau assoupis, deux parterres symétriques et sans ombre, séparés comme par une raie sur le front, par une allée sablée, ratissée, bordée d'orangers en caisse. Au milieu, la statue en bronze d'un grand-duc inconnu, costume Louis-Philippe, sur un socle décoré aux quatre angles par des allégories de vertu. Sur un banc, un promeneur unique dormait sur un journal. À la grille du château, un poste de soldats inutiles dormait. Derrière les fossés pour rire de la terrasse du château, deux canons endormis bâillaient sur la ville endormie. Christophe leur ritonnait à tous. Il entra au château sans se préoccuper de prendre une attitude officielle. Tout au plus, il cessa de chantonner. Ses pensées continuaient de danser. Il jeta son chapeau sur la table du vestibule, en interpellant familièrement le vieil huissier qu'il connaissait depuis l'enfance. Le bonhomme était déjà là, lors de la première visite que Christophe avait faite au château avec son grand-père, le soir où il vit Asler. Mais le vieux, qui toujours répondait avec bonhomie aux boutades peu respectueuses de Christophe, prit cette fois un air rogue. Christophe n'y fit pas attention. Un peu plus loin, dans l'antichambre, il rencontra un employé de la chancellerie, fort bavard et prodigue avec lui, d'ordinaire, en démonstration d'amitié. Il fut surpris de la hâte que ce personnage mit à passer en esquivant un entretien. Il ne s'arrêta pas à ses impressions, et continuant son chemin, il demanda à être introduit. Il entra. Le dîner venait de finir. Son Altesse se tenait dans un des salons. Adossé à la cheminée, il fumait en causant avec ses hôtes, parmi lesquels Christophe distingua sa princesse qui fumait aussi. Négligemment renversée dans un fauteuil, elle parlait très haut à quelques officiers qui faisaient cercle autour d'elle. La réunion était animée. Tous étaient fort gais. Et Christophe, en entrant, entendit le rire épais du grand-duc. Mais ce rire s'arrêta net quand le prince vit Christophe. Il poussa un grognement et, fonçant droit sur lui, « Ah, vous voilà, vous » cria-t-il. « Vous daignez venir enfin. Est-ce que vous croyez que vous allez vous moquer de moi plus longtemps? Vous êtes un drôle, monsieur. » Christophe fut si stupéfait par ce boulet reçu en pleine poitrine qu'il fut un moment avant de pouvoir articuler un mot. Il ne pensait qu'à son retard, qui ne pouvait légitimer une telle violence. Il balbutia « Altesse, qu'ai-je fait ?» L'Altesse n'écoutait pas et poursuivait avec emportement « Taisez-vous ! Je ne me laisserai pas insulter par un drôle !» Christophe, blêmissant, luttait contre sa gorge contractée qui refusait de parler. Il fit un effort et cria « Altesse, vous n'avez pas le droit ! Vous n'avez pas le droit vous-même de m'insulter, sans me dire ce que j'ai fait !» Le grand-duc se tourna vers son secrétaire, qui sortit un journal de sa poche et qui le lui tendit. Il était dans un état d'exaspération que son humeur colérique ne suffisait pas à expliquer. Les fumées de vin trop généreux y avaient aussi leur part. Il vint se planter devant Christophe, et comme un toréador avec sa cape, il lui agita furieusement devant la figure le journal déplié et froissé en criant « Vos ordures, monsieur! Vous mériteriez qu'on vous y mît le nez !» Christophe reconnut le journal socialiste. « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, dit-il. « Quoi ? Quoi ? Glapit le grand-duc. Vous êtes d'une impudence. Ce journal de gredin qui m'insulte journellement, qui vomisse contre moi les injures immondes. « Monseigneur, dit Christophe, je ne l'avais pas lu. « Vous mentez, cria le grand-duc. « Je ne veux pas que vous disiez que je mens, fit Christophe. « Je ne m'occupe que de musique. Et d'ailleurs, j'ai le droit d'écrire où je veux. « Vous n'avez aucun droit, sauf celui de vous taire. « J'ai été trop bon pour vous. « Je vous ai comblé de mes bienfaits, vous et les vôtres, malgré toutes les raisons que votre inconduite et celle de votre père m'auraient donné de me séparer de vous. Je vous défends de continuer à écrire dans un journal qui m'est ennemi. Et de plus, d'une façon générale, je vous défends d'écrire quoi que ce soit à l'avenir sans mon autorisation. J'ai assez de vos polémiques musicales. Je n'admets pas que quelqu'un qui jouit de ma protection passe son temps à attaquer tout ce qui est cher aux gens de goût et de cœur, aux véritables Allemands. Vous ferez mieux d'écrire de meilleures musiques, ou, si cela ne vous est pas possible, de travailler vos gammes et vos exercices. Je ne veux pas d'un bébel musical qui s'amuse à diffamer toutes les gloires nationales, à jeter le désarroi dans les esprits. Nous savons ce qui est bon, Dieu merci. Nous n'avons pas attendu que vous nous le disiez pour le savoir. Donc, à votre piano, monsieur, et fichez-nous la paix. » Le gros homme, face à face avec Christophe, le dévisageait avec des yeux insultants. Christophe, livide, essaya de parler. Ses lèvres remuaient. Il bégaya « Je ne suis pas votre esclave. Je dirai ce que je veux. J'écrirai ce que je veux. » Il suffoquait. Il était prêt de pleurer de honte et de rage. Ses jambes tremblaient. En faisant un brusque mouvement du coude, il renversa un objet sur le meuble près de lui. Il se rendait compte qu'il était ridicule. Et en effet, il entendit rire. En regardant au fond du salon, il vit, au travers d'un brouillard, la princesse qui suivait la scène en échangeant avec ses voisins des réflexions d'une commisération ironique. Dès lors, il perdit l'exacte conscience de ce qui se passait. Le grand-duc criait. Christophe criait plus fort que lui, sans savoir ce qu'il disait. Le secrétaire du prince et un autre fonctionnaire vinrent vers lui et tâchèrent de le faire taire. Il les repoussa. Il agitait en parlant un cendrier qu'il avait saisi machinalement sur le meuble auquel il était adossé. Il entendait que le secrétaire lui disait « Allons, lâchez cela, lâchez cela !» Et il s'entendait lui-même crier des mots sans suite et frapper avec le cendrier le rebord de la table. « Sortez !» hurla le grand-duc au comble de la fureur. « Sortez, sortez, je vous chasse !» Les officiers s'étaient approchés du prince et essayaient de le calmer. Le grand-duc, apoplectique, les yeux hors de la tête, criait qu'on jeta ce chenapan à la porte. Christophe vit rouge. Il fut tout près d'appliquer son poing sur le mufle du grand-duc. Mais il était écrasé par un chaos de sentiments contradictoires. La honte, la fureur, un reste de timidité, de loyalisme germanique, de respect traditionnel, d'habitudes humiliées devant le prince. Il voulait parler, il ne pouvait parler. Il voulait agir, il ne pouvait agir. Il ne voyait plus, il n'entendait plus, il se laissa pousser et sortit. Il passa au milieu des domestiques, impassibles, qui, venus près de la porte, n'avaient rien perdu du bruit de la dispute. Les 30 pas qu'il eut à faire pour sortir de l'antichambre lui semblèrent durer toute une vie. La galerie s'allongeait à mesure qu'il avançait. Il ne sortirait jamais. La lumière du dehors, qu'il voyait luire là-bas par la porte vitrée, était le salut. Il descendit l'escalier en trébuchant. Il oubliait qu'il était nu-tête. Le vieil huissier le rappela pour prendre son chapeau. Il lui fallut ramasser toutes ses forces pour sortir du château, traverser la cour, regagner sa maison. Il claquait des dents. Quand il ouvrit la porte de chez lui, sa mère fut épouvantée par sa mine et par son tremblement. Il l'écarta, il refusa de répondre à ses questions. Il monta dans sa chambre, s'enferma et se coucha. Il avait un tel frisson qu'il n'arrivait pas à se déshabiller. La respiration coupée, les membres brisés. Ah, ne plus voir, ne plus sentir, n'avoir plus à soutenir ce misérable corps, à lutter contre l'ignoble vie, tomber, tomber sans souffle, sans pensée, n'être plus nulle part. Ses habits arrachés avec une peine mortelle et épars autour de lui, par terre, il se jeta dans son lit et s'y enfonça jusqu'aux yeux. Tout bruit cessa dans la chambre. On n'entendit plus que le petit lit de fer qui tremblait sur le carreau. Louisa écoutait à la porte. Elle frappa en vain, appela doucement. Rien ne répondit. Elle attendit, épiant anxieusement le silence. Puis elle s'éloigna. Une ou deux fois dans le jour, elle revint écouter. Et le soir encore avant de se coucher. Le jour passa, la nuit passa. La maison était muette. Christophe tremblait de fièvre. Par moments, il pleurait. Et dans la nuit, il se soulevait pour montrer le poing au mur. Vers 2 heures du matin, dans un accès de folie, il sortit du lit en nage et à moitié nu. Il voulait aller tuer le grand-duc. Il était dévoré de haine et de honte. Son corps et son cœur se tordaient dans la flamme. De cette tempête, rien ne s'entendait au dehors. Pas un mot, pas un son. Les dents serrées, il renfermait tout en lui. Le lendemain matin, il redescendit comme d'habitude. Il était ravagé. Il ne dit rien, et sa mère n'osa rien lui demander. Elle savait déjà par les rapports du voisinage. Tout le jour, il resta sur une chaise, au coin du feu, muet, fiévreux, le dos courbé, comme un vieux. Et quand il était seul, il pleurait en silence. Vers le soir, le rédacteur du journal socialiste vint le voir. Naturellement, il était au courant et voulait des détails. Christophe, touché de sa visite, l'interpréta naïvement comme une démarche de sympathie et d'excuse de la part de ceux qu'il avait compromis. Il mit son amour-propre à ne rien regretter, et il se laissa aller à dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Ce lui était un soulagement de parler librement à un homme qui eut comme lui la haine de l'oppression. L'autre l'excitait à parler. Il voyait dans l'événement une bonne affaire pour son journal, l'occasion d'un article scandaleux dont il attendait que Christophe lui fournît les éléments, à moins que Christophe ne l'écrivît lui-même. Car il comptait qu'après cet éclat, le musicien de la cour mettrait au service de la cause son talent de polémiste, qui était appréciable, et ses petits documents secrets sur la cour, qu'il était encore plus. Comme il ne se piquait pas d'une délicatesse exagérée, il présenta la chose sans artifice. Christophe en eut un haut-le-corps. Il déclara qu'il n'écrirait rien, alléguant que toute attaque de sa part contre le grand-duc serait interprété comme un acte de vengeance personnelle, et qu'il était tenu à plus de réserve, maintenant qu'il était libre, que lorsque, ne l'étant pas, il courait des risques en disant sa pensée. Le journaliste ne comprit rien à ses scrupules. Il jugea Christophe un peu borné et clérical au fond. Il pensa surtout que Christophe avait peur. Il dit « Eh bien, laissez-nous faire, c'est moi qui écrirai. Vous n'aurez à vous occuper de rien. » Christophe le supplia de se taire. Mais il n'avait aucun moyen de l'y contraindre. D'ailleurs, le journaliste lui représenta que l'affaire ne le concernait pas seul. L'insulte atteignait le journal qui avait le droit de se venger. À cela, rien à répondre. Tout ce que put faire Christophe, ce fut de lui demander sa parole, qu'il n'abuserait point de certaines confidences faites à l'ami et non au journaliste. L'autre la lui donna sans difficulté. Christophe n'en fut pas rassuré. Il se rendait compte trop tard de l'imprudence qu'il avait commise. Quand il fut seul, il repassa dans sa tête tout ce qu'il avait dit, et il frémit. Sans réfléchir une minute, il écrivit au journaliste, le conjurant de ne point répéter ce qu'il avait confié. Le malheureux le répétait lui-même en partie dans sa lettre. Le lendemain, la première chose qu'il lut, en ouvrant le journal avec une hâte fiévreuse, ce fut, en première page, tout au long son histoire. Tout ce qu'il avait dit la veille s'y retrouvait démesurément grossi, ayant subi cette déformation spéciale à laquelle sont soumis tous les objets qui passent par un cerveau de journaliste. L'article attaquait avec de basses invectives le grand-duc et la cour. Certains détails qu'il donnait étaient trop personnels à Christophe, trop évidemment connus de lui seul, pour qu'on ne lui attribue à point l'article entier. Ce nouveau coup écrasa Christophe. À mesure qu'il lisait, une sueur froide lui montait au visage. Quand il eut fini, il resta affolé. Il voulut courir au journal, mais sa mère l'en empêcha, redoutant non sans raison sa violence. Il la redoutait lui-même. Il sentait que s'il y allait, il ferait quelque sottise, et il resta pour en faire une autre. Il adressa au journaliste une lettre indignée où il lui reprochait sa conduite en termes blessants, désavouait l'article et rompait avec le parti. Le désaveu ne parut pas. Christophe réécrivit au journal le sommant de publier sa lettre. On lui envoya copie de sa première lettre, écrite le soir de l'entretien, et qui en était la confirmation. On lui demandait s'il fallait la publier aussi. Il se sentit dans leurs mains. Là-dessus, il eut le malheur de rencontrer dans la rue l'intervieweur indiscret. Il ne put s'empêcher de lui dire le mépris qu'il avait pour lui. Le lendemain, le journal publia un entrefilet insultant où l'on parlait de ces domestiques de cour qui, même quand on les a flanqués à la porte, restent toujours des domestiques. Quelques allusions à l'événement récent ne permettaient point de douter qu'il ne s'agit de Christophe. Quand il fut bien évident pour tous que Christophe n'avait plus aucun appui, il se trouva soudain d'une richesse en ennemis qu'il n'eût jamais soupçonnée. Tous ceux qu'il avait blessés, directement ou indirectement, soit par des critiques personnelles, soit en combattant leurs idées et leurs goûts, prirent aussitôt l'offensive et se vengèrent avec usure. Le gros public, dont Christophe avait essayé de secouer l'apathie, contemplait satisfait la correction administrée à l'insolent jeune homme qui avait prétendu réformer l'opinion et troubler le sommeil des gens de bien. Christophe était à l'eau. Chacun fit de son mieux pour lui tenir la tête dessous. Ils ne fondirent pas tous ensemble sur lui. L'un commença d'abord pour tâter le terrain. Christophe ne répondant pas, il redoubla ses coups. Alors d'autres suivirent. Et puis toute la bande. Les uns étaient de la fête par simple divertissement, comme de jeunes chiens qui s'amusent à déposer leurs incongruités en belle place. C'était l'escadron volant des journalistes incompétents qui, ne sachant rien, tâchent de le faire oublier à force d'adulation aux vainqueurs et d'injures aux vaincus. Les autres apportaient le poids de leurs principes, ils tapaient comme des sourds. Où ils avaient passé, il ne restait rien de rien. C'était la grande critique, la critique qui tue. Par bonheur pour Christophe, il ne lisait pas les journaux. Quelques amis dévoués avaient l'attention de lui envoyer les plus injurieux, mais il les laissait s'empiler sur sa table sans penser à les ouvrir. Ce ne fut qu'à la fin que ses yeux furent attirés par une grande marque rouge qui encadrait un article. Il lut que ses leaders ressemblaient au grognement d'un animal sauvage, que ses symphonies sortaient d'une maison de fous, que son art était hystérique, que ses spasmes d'harmonie voulaient donner le change sur sa sécheresse de cœur et sa nullité de pensée. Le critique fort connu terminait ainsi « Monsieur Kraft a naguère donné comme reporter quelques preuves étonnantes de son style et de son goût qui excitèrent dans les cercles musicaux une gaieté irrésistible. Il lui fut alors conseillé amicalement de se livrer plutôt à la composition. Les derniers produits de sa muse ont montré que ce conseil, bien intentionné, était mauvais. Monsieur Kraft devrait décidément faire du reportage. » Après cette lecture, qui empêcha Christophe de travailler pendant toute une matinée, il se mit à la recherche des autres journaux hostiles pour achever de se démoraliser. Mais Louisa, qui avait la manie de faire disparaître tout ce qui traînait, sous prétexte de faire de l'ordre, les avait déjà brûlés. Il en fut irrité d'abord, puis soulagé. Et, tendant à sa mère le journal qui restait, il lui dit qu'elle aurait bien dû en faire autant de celui-là. D'autres affronts lui furent plus sensibles. Un quatuor dont il avait envoyé le manuscrit à une société réputée de Francfort fut refusé à l'unanimité et sans explication. Une ouverture, qu'un orchestre de Cologne semblait disposé à jouer, lui fut retournée après des mois d'attente comme injouable. La pire épreuve lui fut infligée par une société orchestrale de la ville. Le Kapellmeister, âge Euphrate, qui la dirigeait, était assez bon musicien, mais comme beaucoup de chefs d'orchestre, il n'avait aucune curiosité d'esprit. Il souffrait, ou plutôt il se portait à merveille, de cette paresse spéciale à sa corporation, qui consiste à ressasser indéfiniment les œuvres déjà connues et à fuir comme le feu toute œuvre vraiment nouvelle. Il n'était jamais là d'organiser des festivals Beethoven, Mozart ou Schumann. Il n'avait dans ses œuvres qu'à se laisser porter par le ronron des rythmes familiers. En revanche, la musique de son temps lui était insupportable. Il n'osait pas l'avouer et se disait accueillant pour les jeunes talents. De vrai, quand on lui apportait une œuvre bâtie sur un patron ancien, un décalque d'œuvre qui avait été nouvelle il y avait 50 ans, il la recevait fort bien. Il mettait même de l'ostentation à l'imposer au public. Cela ne dérangeait ni l'ordre de ses effets, ni l'ordre d'après lequel le public avait coutume d'être ému. En revanche, il éprouvait un mélange de mépris et de haine pour tout ce qui menaçait de déranger ce bel ordre et de lui causer une fatigue nouvelle. Le mépris dominait si le novateur n'avait aucune chance de sortir de son ombre. S'il menaçait de réussir, c'était alors la haine, bien entendu jusqu'au moment où il avait réussi tout à fait. Christophe n'en était pas encore là, tant s'en fallait. Aussi fut-il surpris quand on lui fit savoir, par des ouvertures indirectes, que Herr H. Euphrate eût été bien aise de jouer quelque chose de lui. Il avait d'autant moins de raison de s'y attendre que le Kapellmeister était un ami intime de Brahms et de quelques autres qu'il avait malmenés dans ses chroniques. Comme il était bon garçon, il prêta à ses adversaires des sentiments généreux qu'il eût été capable d'avoir. Il supposa que, le voyant accablé, il voulait lui prouver qu'ils étaient au-dessus des rancunes mesquines. Il en fut touché. Il écrivit un mot plein d'effusion à H. Euphrate en lui envoyant un poème symphonique. L'autre lui fit répondre, par son secrétaire, une lettre froide mais polie, lui accusant réception de son envoi et ajoutant que, suivant la règle de la société, la symphonie serait prochainement distribuée à l'orchestre et soumise à l'épreuve d'une répétition d'ensemble avant d'être reçue pour l'audition publique. La règle était la règle. Christophe n'avait qu'à s'incliner. Aussi bien, c'était là une pure formalité qui servait à écarter les élucubrations des amateurs encombrants. 2 ou 3 semaines après, Christophe reçut avis que son œuvre allait être répétée. En principe, tout se passait à huis clos, et l'auteur même ne pouvait assister à la répétition. Mais une tolérance universellement admise faisait qu'il était toujours là. Seulement, il ne se montrait pas. Chacun le savait, et chacun feignait de ne le point savoir. Au jour dit, un ami vint chercher Christophe et l'introduisit dans la salle, où il prit place au fond d'une loge. Il fut surpris de voir qu'à cette répétition fermée, la salle, du moins les places du bas, était presque entièrement remplie. Une foule de dilettantes, d'oisifs et de critiques s'agitait en caquetant. L'orchestre était censé ignorer leur présence. On commença par la rhapsodie de Brahms pour voix d'alto, chœur d'homme et orchestre, sur un fragment du Herbstreise im Winter de Goethe. Christophe, qui détestait la sentimentalité majestueuse de cette œuvre, se dit que c'était peut-être, de la part des Brahmines, une façon courtoise de se venger, en le forçant à entendre une composition qu'il avait critiquée irrévérencieusement. Cette idée le fit rire, et sa bonne humeur augmenta, quand, après la rhapsodie, vinrent 2 autres productions de musiciens connus qu'il avait pris à partie. L'intention ne lui sembla pas douteuse. Sans pouvoir dissimuler quelques grimaces, il pensa que c'était après tout de bonne guerre, et, à défaut de la musique, il apprécia la farce. Il s'amusa même à mêler ses applaudissements ironiques à ceux du public, qui fit pour Brahms et ses congénères une manifestation enthousiaste. Enfin, ce fut le tour de la symphonie de Christophe. Quelques regards jetés de l'orchestre et de la salle dans la direction de la loge lui firent voir qu'on était averti de sa présence. Il se dissimula. Il attendait, avec ce serrement de cœur que tout musicien éprouve, au moment où la baquette du chef se lève et où le fleuve de musique se ramasse en silence, prêt à briser sa digue. Jamais il n'avait encore entendu son œuvre à l'orchestre. Comment les êtres qu'il avait rêvés allaient-ils vivre? Quelle serait leur voix? Il les sentait gronder en lui. et penché sur le gouffre de son, il attendait en frémissant ce qui allait sortir. Ce qui sortit, ce fut une chose sans nom, une bouillie informe. Au lieu des robustes colonnes qui devaient soutenir le fronton de l'édifice, les accords s'écroulaient les uns à côté des autres comme une bâtisse en ruine. On n'y distinguait rien qu'une poussière de plâtras. Christophe hésita avant d'être bien sûr que c'était lui qu'on jouait. Il recherchait la ligne, le rythme de sa pensée. Il ne la reconnaissait plus. Elle allait, bredouillante et titubante, comme un ivrogne qui s'accroche au mur. Et il était écrasé de honte, comme si on le voyait lui-même en cet état. Il avait beau savoir que ce n'était pas là ce qu'il avait écrit, quand un interprète imbécile dénature vos paroles, on a un moment de doute, on se demande avec consternation si l'on est responsable de cette stupidité. Le public, lui, ne se le demande jamais. Il croit à l'interprète, au chanteur, à l'orchestre qu'il est accoutumé d'entendre, comme il croit à son journal. Ils ne peuvent pas se tromper. S'ils disent des absurdités, c'est que l'auteur est absurde. Il en doutait d'autant moins, en cette occasion, qu'il avait plaisir à le croire. Christophe essayait de se persuader que le Kapellmeister se rendait compte du gâchis, qu'il allait arrêter l'orchestre et faire tout reprendre. Les instruments ne jouaient même plus ensemble. Le corps avait manqué son entrée et pris une mesure trop tard. Il continua quelques minutes, puis s'arrêta tranquillement pour vider son instrument. Certains traits des hautbois avaient totalement disparu. Il était impossible à l'oreille la plus exercée de retrouver le fil de sa pensée musicale, ni même d'imaginer qu'il y en eût une. Des fantaisies d'instrumentation, des saillies humoristiques devinrent grotesques par le fait de la grossièreté de l'exécution. C'était bête à pleurer, c'était l'œuvre d'un idiot, d'un farceur, qui ne savait pas la musique. Christophe s'arrachait les cheveux. Il voulut interrompre, mais l'ami qui était avec lui l'en empêcha, l'assurant que Herr Kapellmeister saurait bien de lui-même discerner les fautes de l'exécution et tout remettre au point. Qu'au reste, Christophe ne devait pas se montrer et qu'une observation de lui ferait le plus mauvais effet. Il obligea Christophe à se retirer au fond de la loge. Christophe se laissa faire, mais il se cognait la tête avec ses poings, et chaque monstruosité nouvelle lui arrachait un râle d'indignation et de douleur. « Les misérables, les misérables !» gémissait-il, et il se mordait les mains pour ne pas crier. Maintenant montait vers lui, avec les fausses notes, la rumeur du public qui commençait à s'agiter. Ce ne fut d'abord qu'un frémissement. Mais bientôt, Christophe n'eut plus de doute, il riait. Les musiciens de l'orchestre avaient donné le signal. Certains ne cachaient point leur hilarité. Le public, assuré dès lors que l'œuvre était risible, se tordit de rire. La joie fut générale. Elle redoublait au retour d'un motif très rythmé que les contrebasses accentuaient d'une façon burlesque. Seul le Kapellmeister, imperturbable, continuait à marquer la mesure au milieu du charivari. Enfin, l'on arriva au bout. Les meilleures choses ont une fin. La parole était au public. Il éclata. Ce fut une explosion d'allégresse qui dura plusieurs minutes. Les uns sifflaient, les autres applaudissaient ironiquement. Les plus spirituels criaient « bis ». Une voix de basse, venue du fond d'une avant-scène, se mit à imiter le motif grotesque. D'autres farceurs furent pris d'émulation et l'imitèrent à leur tour. Quelqu'un cria « l'auteur ». Il y avait longtemps que ces gens d'esprit ne s'étaient autant amusés. Après que le tumulte fut un peu calmé, le Kapellmeister, impassible, le visage tourné de trois quarts vers le public, mais affectant de ne pas le voir, le public était toujours censé ne pas exister, fit à l'orchestre un signe pour marquer qu'il voulait parler. On cria « chut !» et chacun fit silence. Il attendit encore un moment, puis, sa voix était nette, froide et tranchante, « Messieurs, dit-il, je n'aurais certainement pas laissé jouer cette chose jusqu'au bout si je n'avais voulu me donner une fois en spectacle le monsieur qui a osé écrire des turpitudes sur Maître Brahms. » Il dit, et sautant de son estrade, il sortit au milieu des ovations de la salle en délire. On voulut le rappeler. Les acclamations se prolongèrent pendant une ou deux minutes encore. Mais il ne revint pas. L'orchestre s'en allait. Le public se décida à s'en aller aussi. Le concert était fini. C'était une bonne journée. Christophe était déjà sorti. À peine avait-il vu le misérable chef d'orchestre quitter son pupitre qu'il s'était élancé hors de la loge. Il dégringolait les marches du premier étage pour le rejoindre et le souffleter. L'ami qui l'avait amené courut après lui et essaya de le retenir, mais Christophe le bouscula et faillit le jeter en bas de l'escalier. Il avait des raisons de croire que le personnage était complice dans le traquenard. Heureusement, pour H. et Euphrate et pour lui-même, la porte qui menait à la Seine était fermée, et ses coups de poing furieux ne purent la faire ouvrir. Cependant, le public commençait à sortir de la salle. Christophe ne pouvait rester là, il se sauva. Il était dans un état indescriptible. Il marchait au hasard, agitant les bras, roulant les yeux, parlant tout haut, comme un fou. Il renfonçait ses cris d'indignation et de rage. La rue était à peu près déserte. La salle de concert avait été construite, l'année précédente, dans un quartier nouveau, un peu hors de la ville. Et Christophe, d'instinct, fuyait vers la campagne, à travers les terrains vagues où s'élevaient des baraques isolées et quelques échafaudages de maisons entourées de palissades. Il avait des pensées meurtrières. Il eût voulu tuer l'homme qui lui avait fait cet affront. Hélas ! Et quand il l'eût tué, y aurait-il eu rien de changé à l'animosité de toutes ces gens, dont les rires injurieux retentissaient encore à ses oreilles ? Ils étaient trop, ils ne pouvaient rien contre eux. Ils étaient tous d'accord, eux qui étaient divisés sur tant de choses, pour l'outrager et l'écraser. C'était plus que de l'incompréhension. Il y avait de la haine. Que leur avait-il donc fait à tous ? Il avait en lui de belles choses, des choses qui font du bien et qui dilatent le cœur. Il avait voulu les dire, en faire jouir les autres. Il croyait qu'ils allaient en être heureux comme lui. Si même il ne les goûtait pas, il devait au moins lui être reconnaissant de l'intention. Il pouvait, à la rigueur, lui remontrer amicalement en quoi il s'était trompé. Mais de là à cette joie méchante qu'il mettait à insulter ses pensées odieusement travesties, à les fouler aux pieds, à le tuer sous le ridicule, comment était-ce possible? Dans son exaltation, il s'exagérait encore leur haine. Il lui prêtait un sérieux que ces êtres médiocres étaient bien incapables d'avoir. Il sanglotait. « Qu'est-ce que je leur ai fait ?» Il étouffait. Il se sentait perdu. Ainsi que lorsqu'il était enfant et qu'il fit connaissance pour la première fois avec la méchanceté humaine. Et comme il regardait près de lui, à ses pieds, il s'aperçut qu'il était arrivé au bord du ruisseau du Moulin, à l'endroit où, quelques années avant, son père s'était noyé. Et l'idée lui vint sur le champ de se noyer. Sans attendre une minute, il se disposa à sauter. Mais comme il se penchait sur la berge, fasciné par le calme et clair regard de l'eau, un tout petit oiseau, sur un arbre voisin, se mit à chanter, chanter éperdument. Il se tut pour l'écouter. L'eau murmurait. On entendait les frémissements des blés en fleurs, ondoyant sous la molle caresse de l'air. Les peupliers frissonnaient. Derrière la haie du chemin, dans un jardin, des paniers d'abeilles invisibles emplissaient l'air de leur musique parfumée. De l'autre côté du ruisseau, une vache aux beaux yeux bordés d'agate rêvait. Une fillette blonde, assise sur le rebord d'un mur, une hotte légère à claire-voie sur les épaules, comme un petit ange avec ses ailes, rêvait aussi, en balançant ses jambes nues et chantonnant un air qui n'avait aucun sens. Au loin, dans la prairie, un chien blanc bondissait, décrivant de grands ronds. Christophe, appuyé à un arbre, écoutait, regardait la terre printanière. Il était repris par la paix et la joie de ses êtres. Il oubliait. Il oubliait. Brusquement, il serra dans ses bras le bel arbre contre lequel il appuyait sa joue. Il se jeta par terre. Il s'enfonça la tête dans l'herbe. Il riait nerveusement. Il riait de bonheur. Toute la beauté, la grâce, le charme de la vie l'enveloppaient, le pénétraient. Il pensait « Pourquoi es-tu si belle ?» et eux, les hommes, si laids. N'importe, il l'aimait. Il l'aimait. Il sentait qu'il l'aimerait toujours, que rien ne pourrait l'en déprendre. Il embrassa la terre avec ivresse. Il embrassait la vie. « Je t'ai, tu es à moi. Ils ne peuvent pas t'enlever à moi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils me fassent souffrir. Souffrir, c'est encore vivre. »